Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Afrique 7 jours. Fréjus Kenhomme au micro et je suis aujourd'hui avec Claire-Marie Kostmann. Bonjour Claire-Marie.
Bonjour Fréjus.
En l'absence de Marie-Ange Piron, c'est vous qui êtes allée cette semaine à la chasse des sujets africains commentés dans la presse allemande. Et en attendant de vous retrouver, dites-nous Claire-Marie, quels sont les grands thèmes dont nous parlerons?
Eh bien, nous parlerons de la récente loi sanctionnant l'homosexualité en Ouganda, également de la juge du procès d'Oscar Pistorius en Afrique du Sud et on s'intéressera également au difficile travail de réconciliation de l'Allemagne avec son ancienne colonie, la Namibie.
Afropresse dans la seconde partie de ce magazine, mais avant, il sera question d'une initiative qui va peut-être faire tache d'huile, une bibliothèque au Cameroun pour albinos et autres personnes malvoyantes. Plus de détails dans un instant. À Douala, donc au Cameroun, un albinos voudrait désormais permettre à la masse de ses semblables et des déficients visuels d'accéder à la lecture de manière allègre. Pour cela, il vient d'ouvrir une bibliothèque spéciale appelée le Pavillon Blanc, écho d'une initiative novatrice avec notre correspondant sur place, Henri Fotso.
Jolibo Koube est un albinos comblé. C'est l'initiateur du projet de bibliothèque pour déficients visuels dont il rêvait depuis sa jeunesse. Alors qu'il était encore sur les bancs de l'école, il avait en fait réalisé que son mal faisait de lui un marginal dans son pays. Jolibo Koube.
Malheureusement, la société africaine divise les gens en ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas bien, généralement, ils ne sont pas pris en compte. Donc moi, j'ai été pendant de très longues années confronté au petit caractère. Quand une épreuve était en petit caractère, quand un livre était en petit caractère, j'ai eu à affronter tout cela. Et quand j'ai eu la possibilité de faire quelque chose, je me suis dit, la première chose que je fais, c'est une bibliothèque pour personnes aveugles et malvoyantes.
Et c'est à force de persévérance et de travail personnel acharné que Jolibo Koube parvient à faire ses études primaires, secondaires, jusqu'à l'université. Un vrai parcours de combattant au bout duquel l'ouverture récente de la bibliothèque baptisée le Pavillon Blanc.
Je n'ai que des anecdotes parce que je ne compte pas le nombre de fois où, par exemple, j'ai remis une copie vierge au cours d'une interrogation, au cours d'un examen, pas parce que je n'étais pas à la hauteur de l'épreuve, mais parce que les caractères de l'épreuve étaient petits, donc je n'arrivais pas à accéder à l'épreuve.
Dans cette toute nouvelle bibliothèque pour malvoyants qui vient d'ouvrir ses portes en face de l'université de Douala, tout a été conçu pour faciliter la tâche aux albinos. Le dispositif est simple. Le livre est disposé sous l'objectif d'un appareil numérique. Son contenu apparaît à l'écran en très gros caractères. Des logiciels agrandissant les caractères ont été installés sur les ordinateurs équipés de claviers spécialement conçus. On peut même changer le fond de l'écran et la couleur des lettres. Hans Ekwala, jeune étudiant albinos.
Oui, là déjà dans un premier temps, vous pouvez zoomer les images au cas où peut-être vous voyez assez mal. En fonction des préférences aussi, vous pouvez stabiliser l'image à un niveau. Mais pour les plus malvoyants, vous pouvez zoomer. Puisque le zoom, apparemment, il est infini. Bon, au fur et à mesure que les caractères s'agrandissent, lorsque vous êtes arrivé à votre seuil de vision, là, vous pouvez vous arrêter.
Marie-Madeleine Wafo, présidente de l'Association des femmes albinos du Cameroun.
Vous savez, généralement, les albinos naissent myopes. Vous voyez, et avec la myopie, on ne peut pas lire. Écrire même, c'est un problème.
Pour ceux qui ont de lourds problèmes de vue, des livres audio sont mis à disposition. Des livres enregistrés sur CD offerts gracieusement par des bibliothèques européennes, notamment françaises, belges, allemandes et suisses. Jolibo Koube.
Si nous sommes dans le même pays, si nous aspirons au même avenir, si nous avons les mêmes ambitions pour notre pays, il faudrait que nous ayons accès aux mêmes choses. Donc cette bibliothèque a pour but de rendre accessible aux gens qui ont des problèmes de vue des domaines de la vie qui leur sont en réalité, en théorie, inaccessibles, comme lire pour quelqu'un qui ne voit pas, parce qu'il n'y a pas encore des romans camerounais en braille. Donc nous, on veut arriver à ce résultat-là.
Les albinos du Cameroun se sont mis à rêver de classes équipées de ce matériel pour leurs enfants scolarisés. Quant à Jolibo Koube, il envisage déjà d'ouvrir ce type de bibliothèque dans d'autres villes du Cameroun. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle.
« Vous êtes toujours à l'écoute d'Afrique 7 jours et c'est l'heure de Afropresse avec Claire-Marie Kostmann. Et la presse allemande se penche à nouveau cette semaine sur la loi condamnant l'homosexualité en Ouganda, Claire-Marie.
Jusqu'en 2003, l'homosexualité était tolérée en Afrique, assure le Tagesspiegel. Mais l'ordination d'un prêtre homosexuel aux États-Unis a mis le feu aux poudres à l'intérieur de l'église anglicane africaine. Elle s'est alors séparée des églises américaines et anglaises. C'est au Nigeria que le rejet a été le plus fort, avant qu'une nouvelle marche ne soit gravie avec la loi ougandaise. Pourtant, l'homosexualité est présente dans les traditions africaines, souligne le journal. Au Kenya, il existe le mariage entre femmes dans plusieurs ethnies. Dans les sociétés musulmanes comme à Zanzibar en Tanzanie, il y a une tolérance envers les gays et les lesbiennes. La Berliner Zeitung voit désormais une sorte de guerre froide entre l'Ouganda et les pays occidentaux. Ces derniers, effrayés, ont annoncé qu'ils allaient réduire leur aide au développement. En réponse, le président Yoweri Museveni s'est tourné vers l'Est plutôt que vers l'Ouest, c'est-à-dire vers la Russie et son président Vladimir Poutine, qui a promulgué l'an dernier une loi condamnant la propagande homosexuelle. La Süddeutsche Zeitung rend hommage au premier homme politique ougandais à avoir critiqué cette loi, le leader de l'opposition Kizza Besigye. D'après lui, cette loi n'a pour seul but que de détourner l'attention des Ougandais des vrais problèmes du pays. L'homosexualité n'est pas occidentale, elle existait avant l'arrivée des Européens, a-t-il assuré, répondant à l'un des arguments les plus couramment utilisés par les anti-gays.
Un reportage maintenant, un reportage publié par la Tageszeitung. Il s'agit du kilomètre 13 qui est indiqué comme No Man's Land.
Cette terre sans hommes débute à la sortie de Bangui. La Croix-Rouge récupère des cadavres tous les jours ici, malgré la présence de la MISCA et des soldats français. Des jeunes anti-balaka patrouillent armés de couteaux et de machettes. Des musulmans vivent dehors, dans des cabanes, dans la mosquée. Rien que dimanche, plusieurs d'entre eux ont été tués, écrit le journal. En suivant la route, on voit des villages abandonnés, des maisons et des magasins incendiés, les restes d'une mosquée. Les anti-balaka se sont déchaînés ici. Toujours à propos de la Centrafrique, la Berliner Zeitung indique que l'Allemagne devrait également participer à l'envoi de renforts préconisés par l'ONU. Il ne s'agira pas d'une mission de combat, la ministre de la Défense l'a de nouveau exclu, mais plutôt de l'envoi d'un avion hôpital et d'une vingtaine d'officiers d'état-major à Bangui.
Les journaux allemands sont aussi nombreux à revenir sur le procès de l'athlète Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie en Afrique du Sud.
Avec cet angle particulier, c'est une juge noire à la carrière atypique qui va décider du sort d'un blanc riche et célèbre dans un pays marqué par l'apartheid. La Süddeutsche Zeitung dresse le portrait de Tokozile Mazipa, 66 ans. Elle est née dans un township de Soweto, a travaillé dans le social puis le journalisme avant de devenir avocate, puis une des premières femmes noires nommées juge. Elle s'est fait connaître par des jugements très sévères contre des auteurs de violences faites aux femmes, comme le violeur en série Moyo, condamné à 252 années de prison. Le procès d'Oscar Pistorius se déroule sous l'œil des caméras, mais il est aussi suivi de près par le gouvernement à 2 mois des élections générales. Pour Tokozile Mazipa, ce procès est non seulement le plus spectaculaire de sa carrière, mais aussi le plus délicat, conclut le quotidien de Munich.
Et Claire-Marie Kostmann, la presse allemande s'intéresse également à l'histoire qui lie l'Allemagne à une de ses anciennes colonies d'Afrique australe, la Namibie.
Une histoire qui reste douloureuse entre l'Allemagne et la Namibie, même 100 ans après. Cette semaine, l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin a rendu les crânes et les os de 21 victimes Herero et Nama à la Namibie, écrit la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ces ossements avaient été ramenés, comme des milliers d'autres, de la colonie allemande pour mener ce qui était appelé des recherches sur la race. Le PDG de l'hôpital s'est excusé personnellement en tant que scientifique. Mais le Tagesspiegel souligne que tout ne s'est pas si bien passé. Le gouvernement fédéral n'a invité ni des descendants de victimes du génocide, ni le public, par crainte des protestations. Le journal rappelle qu'en 2011, il y avait déjà eu un scandale lors d'une cérémonie où des os avaient été rendus. Le secrétaire d'État de l'époque n'avait pas présenté d'excuses officielles. Ce qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle a fait environ 95 000 morts en Namibie. Il resterait encore 3 000 ossements dans les musées allemands comme autant de vestiges de l'histoire coloniale.
Et un autre sujet qui concerne l'Allemagne en Afrique, et nous prenons la direction de l'Afrique de l'Est, où l'Allemagne procède à des études sous-marines pour trouver du gaz naturel, en particulier le long des côtes de Tanzanie et du Mozambique.
En effet, le navire de recherche Sonne, ce qui veut dire soleil en allemand, a mis le cap vers cette zone, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est piloté par l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles pour le compte du ministère allemand de l'économie. Sa mission, pendant 6 semaines, il va explorer une zone qui pourrait être extrêmement riche en gaz naturel. En théorie, les réserves représenteraient le triple des ressources de la Norvège, le deuxième producteur mondial. De quoi fournir à Berlin des ressources à long terme, mais cet Eldorado n'est pas encore à portée de main pour la Tanzanie et le Mozambique. Ils n'ont par exemple pas réussi à s'accorder pour livrer à l'Asie du gaz naturel liquéfié. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant encore une décennie.
Et nous terminons, Claire-Marie, cette revue de presse avec un peu de glamour et de paillettes.
Oui, Fréjus, grâce à la superbe Lupita Nyong'o qui apparaît tout sourire dans la Süddeutsche Zeitung, il y a de quoi la remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle dans le film 12 Years a Slave de Steve McQueen. Elle y joue une esclave maltraitée dans une plantation en Amérique. On apprend que la jeune femme de 31 ans est née au Mexique d'un père kényan. Elle a grandi au Kenya et aux États-Unis où elle a étudié le théâtre et le cinéma. En plus d'être belle et douée, elle est engagée. Elle a produit et réalisé un projet de cœur, comme l'écrit le journal. Il s'agit d'un film consacré à la vie difficile de Kenyan albinos, intitulé « Dans mes gènes ».
Merci beaucoup, l'Afropresse. Et c'est la fin de ce magazine Afrique 7 jours que nous vous remercions d'avoir suivi. Sachez que vous pouvez nous donner votre point de vue sur le reportage ou l'Afropresse. Et pour le faire, il suffit de nous envoyer un SMS au numéro suivant 00 49 176 64 12 12 63. Afrique 7 jours, c'était une coproduction de Claire-Marie Kostmann et Fréjus Kenhomme. À la semaine prochaine pour un autre numéro.